Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Et oui Jacques, vous savez que c'est la réunion aujourd'hui à Paris des pays membres et donateurs du G5 Sahel, la force militaire internationale qui doit se substituer à Barkhane et à laquelle manque toujours l'Algérie. Bonjour Kader Abderrahim.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone avec nous, chercheur à l'IRIS, maître de conférence à Sciences Po, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme. Ces 5000 hommes doivent en remplacer à terme 4000. C'est à peu près l'enjeu du G5 Sahel, une nécessité pour les États de la région liée par des frontières poreuses, peut-être inspirée par la force conjointe Nigeria-Cameroun contre Boko Haram. Mais l'Algérie, c'est vrai, reste étonnamment absente de ce dispositif, étonnamment parce qu'elle a plus de 3000 km de frontières avec les principaux pays du Sahel, toute la frontière nord de la zone Barkhane, en gros, sans oublier la Libye, qu'elle est aussi depuis 30 ans au cœur, on pourrait dire, de l'histoire djihadiste au Maghreb Sahel, avec la décennie noire, la réconciliation et la militarisation du sud algérien. Mais elle reste effectivement désengagée de ce nouveau dispositif. C'est un pays spécifique, la plus grosse armée de la région, avec son histoire et sa fragilité politique. En tout cas, elle joue là à fond la carte de son autonomie. Est-ce qu'elle se méfie d'une initiative française et est-ce qu'elle est ce fameux point aveugle du dispositif anti-djihadiste en Afrique de l'Ouest? Ce qu'on peut rappeler, peut-être pour commencer, effectivement, c'est que cette Algérie, Kader Abderrahim, est vraiment au cœur de cette histoire djihadiste. Là, on parle des 7 ans de Ben Ali, mais il y a 5 ans, c'était la prise d'otage d'In Amenas quand même.
Oui, absolument. Et depuis, l'Algérie n'a pas évolué, elle n'a pas changer de paradigme, mais elle souhaite rester ce pays qui résiste à tout, à toute forme d'évolution, et qui résiste aussi presque, j'ai envie de dire, à une certaine réalité, parce que aujourd'hui, c'est quand même devenu extrêmement difficile d'imaginer pouvoir seul combattre le terrorisme, alors que on est un pays qui traverse une grave crise institutionnelle et économique, et on comprend toujours pas les raisons pour lesquelles l'Algérie refuse de s'intégrer régionalement dans un processus de lutte antiterroriste, alors même que ce serait son intérêt.
Alors, on va revenir sur les hypothèses qui concernent cette implication ou non-implication régionale. En tout cas, il faut rappeler, là, je parlais d'In Amenas, que l'Algérie a quand même participé aussi et participe toujours, en tout cas sur son propre territoire, à la traque des djihadistes. Elle annonce régulièrement chaque année des bilans de quelques dizaines de djihadistes tués.
Oui, absolument, même si aujourd'hui, en termes d'intensité, la lutte contre le terrorisme n'est plus aussi importante que ce qu'elle était dans les années 90, il demeure un terrorisme résiduel, donc régulièrement, effectivement, la presse se fait l'écho d'accrochages avec l'armée ou avec la police ou la gendarmerie, ce qui prouve que, malgré tout, le processus politique qui a été enclenché à la fin des années 90 avec le retour de M. Bouteflika aux affaires n'a pas permis de régler cette question-là définitivement et qu'elle reste tout de même une hypothèque pour la population civile au quotidien.
Oui, le président Bouteflika qui en est à son quatrième mandat. Quand même, il y avait eu aussi une certaine implication de l'Algérie, ou en tout cas des interrogations sur son rôle trouble dans la formation d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, puisque une partie en tout cas était dérivée de ce fameux groupe djihadiste en Algérie, le GIA, il y a quelques années.
Oui, absolument. La stratégie de l'armée algérienne et des autorités politiques a été, de se débarrasser du problème, sachant qu'elle ne pourrait pas le régler clairement, définitivement. Donc, il y a différentes hypothèses qui ont été élaborées à cette époque-là, selon lesquelles il y a eu des accords qui auraient été négociés, discutés entre les groupes terroristes et les services de renseignement pour que ces groupes quittent l'Algérie et aillent poursuivre leurs opérations terroristes plutôt au Sud-Sahara, voire au Sahel, ce qui est aujourd'hui cette réalité. Donc l'Algérie s'est débarrassée du problème sur les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, sans régler la question, y compris pour elle. Et par conséquent, ça provoque à la fois une complexification de la situation pour elle, encore une fois, mais également pour ses voisins. Et en même temps, ça agrandit le spectre dans lequel il faut aujourd'hui combattre le terrorisme.
Et précisément, à l'époque, avant même qu'il y ait les événements du Mali, donc en 2012-2013, l'Algérie avait proposé quand même une forme d'implication, de s'impliquer régionalement, avec la création du CEMOC, le comité d'état-major opérationnel conjoint, qui devait avoir un QG à Tamanrasset. Qu'est-ce que ça a donné, cette initiative ?
Bah, sur le papier, ce scellement qui existe toujours, hein. Parfois, il y a des réunions, on ne sait pas très bien à quoi elles servent, ni quelle est leur utilité opérationnelle, mais dans les faits, ils fonctionnent pas, faute de moyens, et puis surtout faute de convergence politique, parce qu'un certain nombre de ces pays qui participent au CEMOC à Tamanra 7 sont aussi eux-mêmes, voient les limites de cet exercice, notamment le blocage régional avec le Maroc, puisque l'Algérie, à chaque fois, dans les instances où elle est présente régionalement, demande que le Maroc n'y soit pas. Donc il y a aussi cette rivalité régionale qui est intégrée dans l'analyse de la lutte antiterroriste qui bloque aujourd'hui quand même beaucoup de perspectives de solutions éventuelles.
Et alors, si ce G5 Sahel redéfinit aussi à terme les équilibres régionaux, pourquoi est-ce que l'Algérie aujourd'hui n'y participerait pas, étant donné qu'elle est quand même très impliquée, elle a été impliquée dans la solution politique au Mali également, c'est les accords d'Alger de 2015.
Absolument, mais je pense qu'il faut vraiment lire ce qui se passe aujourd'hui à l'aune de la crise institutionnelle que vit l'Algérie, c'est-à-dire un président malade et absent. On ne sait pas très bien qui gouverne, qui dirige, qui prend les décisions, ni même quel est le processus, quelle est la chaîne de décision. Donc c'est très difficile, mais je pense aujourd'hui que la principale raison, elle est là. Cette absence de tête en Algérie, qui ferait que la stratégie de l'Algérie serait clairement dite, serait affirmée, et puis qu'elle serait assumée politiquement. Et aujourd'hui, hors, encore une fois, cette rivalité avec le Maroc, qui est très ancienne, on comprend que la crise institutionnelle ne permet pas à l'Algérie d'établir une véritable stratégie, encore une fois, pour elle-même, d'abord, et en même temps, comment la manière dont elle s'envisage dans la région.
Alors, quand vous parlez de rivalité avec le Maroc, il y a effectivement un vieux contentieux et une méfiance actuelle. Il y a aussi cette question de l'adhésion du Maroc à la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. On y était presque à la fin de 2017, ça a été reporté à 2018. Ça comprendrait des accords de défense et de coopération, donc ont une implication du Maroc. Est-ce que ça ne fait pas cet ensemble une urgence nouvelle pour l'Algérie, justement, qui l'inciterait à s'impliquer ?
Oui, les Algériens, en tout cas les militaires algériens, lorsque vous discutez un peu avec eux, ils ont la sensation d'un encerclement. Hein. C'est un peu la citadelle assiégée. Et en même temps, eux-mêmes ne font rien pour tenter de sortir de cet encerclement qui leur permettrait de se désenclaver. Donc oui, il y a ce problème et cette rivalité. Et puis le Maroc, lui, de manière très habile, a très bien compris qu'aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose à attendre du Maghreb et que le Maroc ne pouvait pas non plus attendre une évolution hypothétique de l'Algérie. Donc elle s'est tournée, elle s'est redéployée vers l'Afrique. Et la CDAO est une nouvelle perspective pour le Maroc après sa réintégration au sein de l'unité africaine. Mais bon, ça semble un petit peu plus compliqué que ce que les Marocains imaginaient parce qu'ils se voyaient déjà comme partie membre intégrante. Et là, je pense que ça va prendre un peu plus de temps.
Bon, et pour les possibilités de désenclavement, justement, et également la question de l'exécutif algérien, Emmanuel Macron donc s'est rendu à Alger en décembre. On pense qu'il a rencontré le président Bouteflika et on dit qu'il a rencontré aussi Ahmed Gaïd Salah, qui est le chef d'état-major, lui aussi quand même un ancien de la politique, pour convaincre l'Algérie de participer. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que ça donne quelque chose, ces démarches?
Absolument aucune. Et puis pour le moment, on ne voit pas non plus de changement d'attitude ou de comportement de la part de l'Algérie. Ça peut venir si jamais le président Bouteflika venait à disparaître brutalement et que la crise institutionnelle nécessitait peut-être une redéfinition des partenariats stratégiques, notamment en termes de sécurité. Mais pour le moment, je ne vois pas la raison qui amènerait le régime algérien à évoluer de manière aussi radicale.
Et dernière chose, justement, si on parle des raisons de fond en une minute, mais il y a aussi cette question qui est dans l'ombre de l'Algérie, c'est un peu la question Touareg, dans laquelle l'Algérie était très impliquée également et qui se présente un petit peu comme la question kurde au Moyen-Orient. Est-ce que l'Algérie pourrait pas justement avoir un rôle positif dans l'établissement, disons, d'une sorte de force Touareg dans la région, disons-le comme ça.
Oui, là aussi, l'Algérie a toujours joué un rôle extrêmement important dans les revendications souverainistes, autonomistes, voire dans certains groupes carrément nationalistes, c'est-à-dire revendiquant la création d'un État Touareg. Elle a toujours joué un rôle diplomatique apaisant. On se souvient de Bouteflika en 2000-2001 qui avait obtenu un accord, hein, à l'accord de Bamako. Et donc l'Algérie a toujours considéré son espace, sa profondeur stratégique saharienne comme étant un élément de sa stabilité, parce qu'il y avait une vraie articulation entre la manière dont l'Algérie se voulait présente dans son pays, et puis également dont elle se pensait régionalement. Et là, il y a une rupture. On ne voit plus de stratégie, on ne voit plus de projet, et c'est ce qui fait aujourd'hui que la question Touareg est devenue aussi un enjeu de sécurité, y compris pour l'Algérie, parce qu'on l'a vu avec l'effondrement du régime libyen, les Touaregs se sont venus récupérer des armes et sont repartis partout où ils étaient dans leur pays pour aujourd'hui mener le combat contre les pouvoirs centraux, que ce soit Bamako ou au Niger.
Et on en parlera prochainement. Merci beaucoup Kader Abderrahim. Toutes les informations vidéo complémentaires sur la page des enjeux. Demain, on parle de réintégration de l'Allemagne dans le jeu européen.